Aujourd'hui, la presse va mal parce que la démocratie va mal.
Quatrième murmure.
Il nous faut réagir, réagir vite et ensemble.
L'émission qui porte la voix de la presse libre et des médias indépendants.
Moi, ça me fait respirer. En fait, la presse indépendante, elle m'ouvre des poches de respiration.
Un mardi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
Libérons l'info des pouvoirs politiques, des médias de la haine et des milliardaires.
Quatrième murmure, évidemment, vous le savez déjà, c'est l'émission où on parle de la presse indépendante, on parle de son importance, on parle de la façon dont elle se bat au quotidien pour continuer d'être un contre-pouvoir. Mais l'indépendance de la presse ne pourrait probablement pas exister sans l'indépendance des journalistes. Alors, pour cette raison et pour le dernier épisode de la saison de Quatrième Murmure, on fait ce soir un petit focus sur les journalistes indépendants, qu'on appelle d'ailleurs plus volontiers les journalistes pigistes. Alors, on verra bien sûr ce que ça signifie d'être journaliste pigiste, on verra aussi ce que ça implique au quotidien et la façon dont ça se répercute sur la pratique du métier, mais aussi, par extension, sur l'indépendance de la presse elle-même. Vous allez l'entendre, être pigiste, c'est aussi faire face à la précarité, c'est se battre pour faire respecter ses droits, c'est aussi être son ou sa propre chef, avec bien sûr toutes les difficultés que ça implique. Mais qui dit indépendance ne dit pas forcément solitude. Et c'est justement pour en discuter qu'on se retrouve ce soir en direct au Pré Saint-Gervais avec le collectif Focus, qui est donc un collectif de journalistes pigistes. Plusieurs d'entre elles et eux vont se succéder sur le plateau pour témoigner de l'importance pour les pigistes de s'organiser en collectif. Et la première invitée donc de Focus à se présenter à notre micro, c'est toi, Noujoud. Salut et merci d'être avec nous ce soir.
Bonjour, merci à toi.
Et à côté de toi, on accueille aussi Giovanni Simone. Toi, tu fais partie de l'association Profession Pigiste, qui entre autres accompagne les pigistes dans toutes leurs galères. On en parlera un petit peu plus précisément avec toi tout au long de l'émission. Bonsoir Giovanni et merci d'être avec nous.
Bonsoir, merci à toi.
Et on est aussi avec Thomas et Cléo, qui font partie de l'équipe de Quatrième Murmure. Salut à toi Thomas et Cléo qui est dans le public.
Salut.
Alors vous nous avez préparé des chroniques et d'autres surprises. Je n'en dis pas plus pour le moment, on va découvrir ça tous ensemble. En attendant, vous avez le programme. On est avec vous pour 1h30 d'émission sur Radio Campus Paris. Bienvenue dans le 8e épisode de Quatrième Murmure.
Quatrième Murmure sur Radio Campus Paris.
Alors avant de commencer, vous le savez, si vous êtes des fidèles auditeurs, auditrices de Quatrième Murmure, on commence par la fameuse revue de presse des médias indépendants.
T'as pas lu les journaux ?
Moi, comme je suis au courant de rien, excusez-moi.
Ok, on s'occupe de tout, tu t'occupes de rien.
Moi, j'adore lire les journaux.
Bon allez, hop, c'est parti.
Et Thomas, ce soir, c'est toi qui t'y colle. Qu'est-ce que tu retiens de la presse indépendante ces dernières semaines ?
Bah, un des premiers sujets qui m'a marqué, c'est Palantir qui veut étendre son influence en Europe. Donc Palantir, c'est une entreprise états-unienne du secteur de l'intelligence artificielle, cofondée en 2003 par le milliardaire trumpiste Peter Thiel. Elle commercialise des logiciels d'analyse de données et un de leurs produits phares, c'est le logiciel Gotham. Ce dernier est notamment utilisé par la police de l'immigration états-unienne l'ICE pour traquer les migrants en situation d'irrégularité. Dans deux articles publiés par l'Observatoire des multinationales, la journaliste Anne-Sophie Saint-Père démontre les liens très étroits entre Palantir et l'administration Trump, puis détaille la stratégie de Palantir pour conquérir le marché européen.
Et c'est quoi ses objectifs en Europe ?
Bah, déjà, c'est obtenir un maximum de nouveaux clients. En France, par exemple, la DGSI utilise déjà le logiciel Gotham depuis 2015, mais c'est surtout avec le secteur privé que Palantir multiplie les ventes, comme avec Airbus, AXA ou la Société Générale, par exemple. Tout ça malgré sa réputation quelque peu sulfureuse. L'entreprise, elle a aussi une stratégie d'influence auprès des gouvernements européens, mais je vous laisse aller découvrir tout ça en lisant l'enquête très complète et en accès libre.
Et pour la deuxième actu, tu voulais nous parler de fibrome utérin.
Eh oui, tout à fait, parce que après l'endométriose ou encore le syndrome des ovaires polykystiques, je vous présente une énième maladie gynécologique maltraitée et sous-étudiée depuis des décennies, les fibromes utérins. Ce sont des tumeurs bénignes situées sur le muscle de l'utérus qui peuvent entraîner des saignements importants, des douleurs pelviennes et dans les cas les plus graves, de l'infertilité et des complications lors de l'accouchement. En France, cette maladie toucherait une personne à vulve sur quatre. La journaliste Lola Huguen expose les difficultés des personnes atteintes par cette pathologie dans un article publié par le média Politis. Notamment en ce qui concerne le parcours de soins qui est un véritable calvaire, ce qui a évidemment des impacts très concrets sur la santé mentale et physique des personnes concernées. Tristement banal, finalement, pour une maladie féminine.
Et la dernière actu concerne la fiabilité des tests génétiques en ligne.
Ouais, tout à fait. Bah, comme on est quand même gentiment invité par le collectif Focus ce soir, j'avais envie de mettre en avant une petite partie du travail d'au moins une de ses membres. Et ça tombe bien parce que Mélissandre Brie a écrit un article pour Brief Science sur les fameux tests génétiques à faire chez soi pour découvrir ses origines, en tout cas selon les promesses marketing des entreprises privées qui les commercialisent. Alors l'article, il fait le point sur l'état de la recherche scientifique quant à la fiabilité de ces tests, et autant dire que les résultats sont à prendre avec beaucoup de prudence, car je cite, « des erreurs peuvent s'accumuler tout au long de la chaîne de production ». Fin de citation. Bon, petit rappel d'ailleurs, ces tests récréatifs sont illégaux en France, même s'il est très facile de s'en procurer via des plateformes étrangères.
Merci Thomas pour cette revue de presse des médias indépendants. Tout ce que tu as cité d'ailleurs est disponible en ligne. N'hésitez pas à aller retrouver tout ça. On est toujours donc à la soirée du collectif Focus pour parler des pigistes et du monde impitoyable de la pige et aussi des collectifs de pigistes. Alors toi Giovanni, tu fais partie du CA de l'association Profession Pigiste. Avant d'entrer dans les détails, est-ce que tu peux nous donner une explication, une définition rapide de ce que c'est être pigiste ?
Alors, la réponse courte, c'est qu'un pigiste, c'est un salarié d'une entreprise de presse qui est rémunéré à la tâche et non pas au temps de travail. Il faut dire que depuis la loi Cressard de 1974, on implique que le contrat de travail du pigiste est un contrat présumé. Donc, à partir du premier bulletin de salaire dans une entreprise de presse, on est considéré comme salarié. Et donc, on a tous les droits d'un salarié normal, entre guillemets. C'est une exception française, ça n'existe pas, je peux vous le dire, dans les autres pays européens. Il y a environ 12% de pigistes sur les 34 000 détenteurs de cartes de presse en France en 2025.
Et toi, tu fais partie donc de ces 12% de pigistes parce que tu es donc toi-même pigiste et membre du collectif Enquêto. Et donc tu fais aussi partie du CA de Profession Pigiste. Est-ce que tu peux nous présenter l'association, depuis quand elle existe et son rôle dans le monde de la pige ?
La Profession Pigiste, c'est une association de loi 1901 qui existe depuis l'an 2000. On n'est que des bénévoles et l'objectif, c'est de fédérer les journalistes pigistes, de les informer, de diffuser de l'information sur ce qui se passe dans le monde de la pige, de favoriser la solidarité entre les pigistes parce que, comme tu l'as dit au début, ce n'est pas un travail solitaire forcément et il faut qu'on se serre le coude pour faire valoir nos droits.
Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on se retrouve ce soir avec le collectif Focus. Noujoud, je me tourne vers toi. Rebonjour. Tu es toi aussi donc journaliste pigiste. Tu fais partie de plusieurs collectifs, dont Focus. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce collectif Focus, depuis quand ça existe ?
Oui, alors déjà, merci d'être là à notre soirée annuelle, parce qu'il faut quand même le dire, c'est notre soirée annuelle. On est super content de pouvoir faire ça avec Radio Campus. Et voilà, juste merci pour ça, parce que c'est un bon moment aussi pour nous. Donc Focus, c'est une association, c'est un collectif qui existe depuis 2019. On est 22 membres. Et en fait, ce qui est assez particulier pour Focus, c'est qu'on est un collectif pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des journalistes de presse écrite, il y a des photographes, il y a des gens qui font du documentaire télé, radio, il y a des gens qui font du podcast. Et en fait, je pense que c'est aussi la force de ce collectif, c'est qu'on a des profils très variés, très différents, avec aussi des expériences très différentes. Il y en a qui sont plus jeunes, d'autres qui sont dans la pige depuis plus longtemps. Et donc, ça crée une forme de dynamique, en fait, super équilibrée, où on s'entraide. Et donc, Focus fait plein de choses, vraiment. Je pourrais faire une liste de ce que fait Focus, mais on fait cette soirée annuelle chaque année au 193, donc au Près Saint-Gervais, qui est le lieu de nos bureaux, c'est-à-dire qu'on travaille d'ici. Et on remercie 193 aussi de nous laisser faire notre soirée chaque année. Et aussi, on est présent sur les réseaux sociaux, on fait un week-end entre nous chaque année pour travailler ensemble et imaginer, en fait, la suite du collectif. Et il y a aussi des collaborations professionnelles au sein de ce collectif même. Et nous, on considère que c'est un moyen aujourd'hui de faire du journalisme qui est important, qui est vital quand on regarde le paysage médiatique aujourd'hui. Donc Focus, c'est des journalistes qui s'entraident et qui tentent d'exister dans ce paysage médiatique de plus en plus complexe.
Et tu l'as dit, donc, il y a plusieurs profils différents ici à Focus. Il y a des travaux documentaires et des photographes, journalistes plutôt presse écrite. Est-ce qu'il y a d'autres formes ? Est-ce que tu peux développer un petit peu ?
Alors, il y a la télé, on a beaucoup de journalistes qui font la télé aussi, qui font des documentaires télé, qui font aussi des reportages pour la télé. Je peux citer Arte, par exemple, ou France Télé, ou peu importe. Il y a beaucoup de radios. En fait, je trouve qu'on est assez équilibré dans le sens où il y a vraiment... j'ai l'impression que c'est un groupe de presse écrite, un groupe de radio, un groupe de télé et, en fait, et de photographes, parce qu'on a, je crois, 5 photographes, si je ne m'abuse, ou 4. Et donc, il y a vraiment quelque chose, il y a une synergie qui se crée parce qu'on peut chacun s'entraider. Si moi, demain, moi, je fais de la radio et du podcast et de la presse écrite, si demain, j'ai envie de faire un documentaire télé, bah, je vais demander à mes camarades de Focus ce qu'ils en pensent, comment ils pourraient m'aider. Et souvent, ça fonctionne toujours très bien. Et je trouve qu'il y a une beauté dans ce qu'on crée et qu'il y a une... En fait, Focus, c'est aussi une joie. Et c'est, il y a une dynamique très joyeuse et ça fait du bien aussi dans cette époque. Moi, par exemple, j'aurais jamais... je pense que je ne serais jamais restée pigiste si je n'avais pas intégré Focus parce qu'il y a vraiment une entraide et une bienveillance entre nous qui est assez importante. Et je pense que c'est politique aujourd'hui, la bienveillance. Voilà.
Eh bien, c'est aussi pour ça qu'on se retrouve ce soir. Et d'ailleurs, ça se ressent, hein, cette joie à Focus. On voit dans le public qu'il y a de l'approbation, en tout cas, par rapport à ce que tu dis. Tu fais d'ailleurs aussi partie du collectif Ajar, qui est un autre collectif. Est-ce que tu as envie d'en parler ?
Oui, oui, avec plaisir. Alors, donc, l'Ajar, donc, l'Association des journalistes antiracistes et racisés, donc, c'est une association qui existe depuis 2023 maintenant. Et en fait, on est 200 membres ou un peu plus. Bon, ça bouge un peu, mais en tout cas, c'est 200. Et le but, c'est de faire en sorte que le traitement médiatique en France soit de moins en moins raciste, voire pas raciste du tout, on espère. Et aussi qu'en rédaction, on ait des journalistes racisés qui sont recrutés parce qu'on considère qu'en fait, le traitement médiatique, en fait, il est forcément incomplet quand on n'a que des journalistes blancs dans une rédaction. C'est comme quand on n'a que des hommes dans une rédaction. Voilà, ça fonctionne pareil. Et donc, l'Ajar et moi... Quand je m'investis pour l'Ajar, on essaye en fait de faire en sorte que tout ça soit... enfin, qu'on avance sur ces sujets, en fait, tout simplement. Et l'Ajar fait plein de choses. Il y a un festival, il y a des soirées, il y a des... comment dire, des speed dating avec des rédactions. Enfin, voilà, c'est une asso qui est très, très active aussi et qui est extrêmement importante. Je ne comprends même pas pourquoi elle n'a pas été créée, enfin, pourquoi on n'y a pas pensé avant 2023, en fait. Donc, voilà, c'est super important aussi. Donc, suivez l'Ajar. Voilà.
Certes, une ombre plane dans mes cahiers. Certaines de devoirs m'en aller. J'ai su la buée de la fenêtre. Si proche, on se situe à des kilomètres. Celle, c'est ce qui peuple mes pensées. Exister, vivre sans permission. Me distrait de mes missions. Je l'entends, la voisine d'à côté. Flash, téléphone, tu me proposes un café. Il pleut si facilement, distraite. Moi j'accueille mon vent. Moi j'accueille mon vent. Ah, je vis les mêmes semaines. Je dévie les mêmes appels. J'attends que l'hiver s'en mêle. J'attends, j'attends, je n'attends pas.
Vient d'écouter Café avec Néné de Gaël Joly. Vous écoutez Quatrième Murmure sur Radio Campus Paris.
Quatrième Murmure sur Radio Campus Paris.
On est toujours en direct du 193 au Pré Saint-Gervais avec Giovanni Simone de l'association Profession Pigiste et avec le collectif Focus. D'ailleurs, on accueille en plateau trois nouveaux membres du collectif, Victoire, Zoé et Thomas. Bonsoir à tous les trois et bienvenue sur le plateau de Quatrième Murmure. Alors tous ensemble, on va revenir sur l'importance des collectifs de pigistes pour à la fois faire face aux différentes difficultés du métier, mais aussi pour rendre possible certains projets journalistiques. Parce que être pigiste, c'est bien souvent devoir faire face à une certaine précarité, c'est devoir se battre au quotidien pour défendre ses droits. Et Giovanni, justement, c'est le rôle de Profession Pigiste d'accompagner les pigistes dans ces combats-là. Est-ce que tu peux nous expliquer donc quels sont généralement les principaux enjeux des pigistes et les principales difficultés auxquelles ils font face ?
Donc, avant tout, l'enjeu principal, c'est déjà de se faire payer un salaire, donc d'accéder au statut de pigiste, qui n'est pas donné, parce que récemment, je parlais avec un collègue qui me disait bah, « Pour moi, déjà, être payé un salaire, c'est déjà avoir gagné quelque chose, parce que je passais des années à travailler en faisant des factures. Donc, tous les autres droits des salariés, qui sont les 13e mois, les congés, que souvent les rédactions ne payent pas, passent encore plus à la trappe. Donc déjà, informer les pigistes, c'est un rôle fondamental pour Profession Pigiste, d'informer les journalistes qui travaillent à la pige qu'ils ont des droits vis-à-vis des rédactions. Ensuite, un grand enjeu, c'est justement avoir accès aux rédactions. Pour un journaliste pigiste, c'est plus compliqué que pour un journaliste en poste. Avoir accès aux réunions, pouvoir parler avec les rédacteurs en chef, et du coup sentir d'avoir une légitimité pour travailler dans les médias. Et il y a aussi des problèmes avec les institutions diverses et variées à qui on peut avoir affaire, par exemple avec France Travail. Profession Pigiste a mené un combat avec tous les syndicats majoritaires pour instituer une agence France Travail spécialisée pour les pigistes, parce qu'on a un statut assez complexe et assez particulier. Et enfin, il y a la précarité, quoi. La précarité financière. J'ai regardé récemment les données de l'AFDAS. Les journalistes pigistes ont perdu plus de 500 euros de salaire depuis l'an 2000, en moyenne, par rapport aux collègues en CDI qui ont plutôt gagné 1,5% sur leur salaire de l'année 2000.
Ah oui, d'accord. Donc il n'y a vraiment pas vraiment une évolution dans le bon sens. Et est-ce que justement ça fait partie des raisons pour lesquelles potentiellement les pigistes abandonnent plus vite la pratique du journalisme ?
Certainement. C'est très compliqué de pouvoir joindre les deux bouts en étant pigiste. Donc déjà, en général, les journalistes, 60% des journalistes quittent au bout de 7 ans de carrière. Et la moyenne de durée d'une carrière professionnelle, c'est de 15 ans. Donc c'est des carrières très courtes. Les pigistes sont d'autant plus exposés à cette éventualité que c'est compliqué de se faire une place dans la profession.
Et donc face à tout ça, les pigistes ne sont pas tout seuls, notamment grâce à des collectifs de pigistes qui existent. C'est le cas donc du collectif Focus. Donc je me tourne vers tous les trois, Victoire, Zoé et Thomas. Parce qu'en plus de faire front commun pour défendre vos droits de pigiste, faire partie d'un collectif, ça permet aussi de travailler sur des projets en commun. Zoé, par exemple, c'était ton cas avec Neville qu'on va recevoir tout à l'heure sur le plateau. Vous avez pu allier vos forces pour travailler ensemble et vendre trois papiers pour Politis et Mediapart sur le quartier des Tilleuls au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis. Est-ce que tu veux nous parler de ce projet et pourquoi il vous tenait à cœur ?
Bien sûr. En fait, c'est une histoire qui est assez marrante et qui montre, je pense, aussi ce qui peut naître dans un collectif de pigistes, un peu par accident. Enfin, en l'occurrence, c'était notre cas. On avait fait notre premier, parce que c'était aussi des moments de fête, les collectifs. Donc, il y a la soirée, là, en public, c'est la troisième fois qu'on l'a fait. Mais on a aussi fait deux week-ends, séminaires, fêtes à la rentrée. Et donc, c'était il y a 2 ans. Et en fait, on revenait de ce week-end-là en voiture. Et puis, on se met à discuter de, je sais pas, les sujets, les choses... qu'on aimerait faire, les idées qu'on a. Et je dis, tiens, moi, en ce moment, je m'intéresse au Blanc-Mesnil, parce qu'à ce moment-là, je travaillais sur des sujets liés à l'urbanisme. Et Neville, il dit, mais moi aussi, je m'intéresse au Blanc-Mesnil, pour une toute autre raison. En fait, lui, il s'intéressait plus aux questions des politiques locales en Seine-Saint-Denis. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on s'intéressait au même sujet. Et on s'est dit, bah, tiens, et si on travaillait ensemble ? Et en fait, de là, on s'est mis à bosser sur ce sujet-là. Et effectivement, le Blanc-Mesnil, vous en avez peut-être entendu parler parce que récemment, il y a la journaliste Nassira El-Mouadem qui a sorti un livre. C'était juste avant les municipales. Et en fait, le maire a perdu. Et après, il l'a menacé de mort. Je pense que vous en avez entendu parler. Et du coup, c'est sur ce maire-là qu'on a enquêté. Donc, on n'a pas sorti un livre, mais effectivement, on a sorti 3 papiers. Alors, ça a été une obsession pendant un moment. Et clairement, on aurait aimé... On aurait pu, je ne sais pas si on aurait pu faire un livre, mais on aurait pu écrire beaucoup plus dessus. Mais en fait, ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin aussi dans notre recherche et aussi de... Ouh, alors ça, c'est le rideau de fer de nos voisins qui vient d'être tiré. C'est le gros bruit qu'on vient d'entendre. Je pense que ça nous a permis aussi de ne pas lâcher parce que c'était un sujet complexe. Pour ma part, je n'avais jamais enquêté sur des sujets de politique locale, comme ça, de mairie. Et c'était lié à un quartier. Mais en fait, globalement, ça a dépassé du sujet initial. On a amassé plein de données globalement sur la ville. Et en fait, je pense que ça m'aurait intimidée personnellement. Mais le fait d'être avec Neville... en fait, ça m'a donné de la confiance. Du coup, je pense qu'on était plus organisés. On tenait un drive, on faisait des tableaux. Tous les deux, on peut être un peu bordélique. Et là, du coup, ça nous cadrait. Et en plus, c'était plus rigolo. Enfin, du coup, ça n'avait que des avantages, même si à la fin, nous avons gagné peu d'argent sur ce travail. Voilà, 3 articles. Parce que, voilà, et après, je terminerai là-dessus. Quand on travaille à 2 en presse écrite sur un papier, on n'est pas autant payé. Enfin, la pige, elle n'est pas... Elle ne vaut pas 2 fois plus cher. En fait, juste, on divise le coût du feuillet par 2. Donc, en fait, c'est presque du bénévolat. Mais bon, quitte à faire du bénévolat, autant le faire à plusieurs.
Et en tout cas, la force du collectif a permis de rendre possible ces enquêtes-là et ces sujets-là. Et c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que vous avez pu mélanger vos connaissances et vos forces pour parvenir à faire sortir quelque chose. Et Thomas, toi aussi, tu as publié une série de reportages avec ton camarade de Focus ici, qui est Hugo, Nos yeux, nos oreilles, qui n'aurait pas été possible peut-être sans le collectif.
Tout à fait. Hugo ne fait plus partie du collectif aujourd'hui, mais au moment où ce projet a été lancé, il en faisait partie. Moi, ça faisait 1 an et demi que j'habitais à Jérusalem-Est pour travailler sur la Palestine. Depuis l'automne 2023, donc au départ ça a beaucoup été des commandes qui se sont enchaînées sur des demandes de la presse, de différents titres de presse, et quand j'ai eu un peu plus le temps, je voulais proposer un autre format avec des caméras embarquées en quelque sorte qui sont accrochées sur nos outils de travail, donc l'appareil photo pour ma part et la perche son pour Hugo. Et on a pu travailler en binôme, du coup, aussi grâce au collectif, de se retrouver pour faire une série de reportages qui, ne répondaient pas à des commandes, mais qui étaient vraiment de notre initiative à nous. Et l'avantage du collectif aussi, c'est qu'on a pu projeter le pilote de cette série de reportages à une des soirées qu'on a organisées comme ce soir. Et il se trouve que c'est ce soir-là que le projet a trouvé son producteur, qu'il a vu à la projection. Donc c'est un autre intérêt d'avoir des collectifs, de créer des événements pour donner naissance à des projets.
Et alors où est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui tout ce que vous avez produit ?
Pardon, c'est disponible sur la chaîne YouTube du Monde. Il y a 5 épisodes en ligne actuellement.
D'accord, et peut-être d'autres à venir ?
Une deuxième saison en préparation, mais c'est encore en discussion. Mmh. Ouais.
Et est-ce que ça permet d'acquérir une petite expertise aussi ? Alors, je m'adresse à toutes les personnes qui sont autour de cette table, hein, mais de se mettre comme ça à plusieurs sur un sujet, finalement sortir plusieurs reportages sur un même sujet, finalement, vous commencez à acquérir une certaine expertise.
Forcément, oui. Le fait d'être indépendant, ça laisse le temps pour se plonger dans des sujets plus longtemps que ce que... les journaux exigeraient ou les médias exigeraient sur des commandes où on a en général, moi je parle en tant que photographe, simplement une ou deux journées pour faire des photos. Forcément, pour pouvoir prendre plus le temps, c'est des projets plus personnels où il faut trouver des financements, d'autres types de financements. Là, en l'occurrence, pour cette série, c'était le CNC Talent, donc le Centre National du Cinéma Animé, du cinéma. Et pardon, la question.
La question, c'était simplement...
L'expertise. Et voilà, ouais. C'est que du coup, forcément, de passer du temps, pouvoir passer plus de temps sur ces sujets-là, ça permet de les creuser, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'emballement médiatique. Quoi.
Et on peut retrouver... Deux. Pardon, Zoé.
Oui, enfin, le fait d'être à deux, peut-être, je ne sais pas si c'était ton cas avec Hugo, mais je sais que, en tout cas, pour ma part, je peux avoir tendance à vachement m'éparpiller dans des sujets qui n'ont rien à voir. Et comme je suis toute seule et que je suis mon propre patron, en fait, il n'y a que moi qui décide le prochain sujet sur lequel je vais bosser. Mais là, comme on était avec Neville, enfin, je pense qu'on se rappelait mutuellement, il ne faut pas lâcher le Blanc-Ménil, viens, on rappelle cette source, il faut qu'on renvoie un message, parce que pour ce sujet, on a beaucoup dû courir derrière les gens pour qu'ils nous envoient les documents, des infos. Et en fait, je pense que d'être à deux, ça nous a... On s'est motivés et que si j'avais été seule, j'aurais fait un sujet. Après, j'aurais été en mode « Ciao, le Blanc-Ménil, j'en ai marre ». Et donc, je sais, ça permet effectivement. Et on est devenus un peu experts de ce sujet pendant un moment. Et ça, le fait d'être à deux, je pense que ça a aidé.
En tout cas, on peut retrouver certains éléments de ces reportages. Alors, sur le Blanc-Ménil, je ne sais pas, mais ce soir, lors de l'exposition qui est disponible après cette émission, il me semble qu'il y a une projection aussi de Nos yeux, nos oreilles qui est prévue.
Il y a un extrait d'un des épisodes qui est prévu, oui, tout à fait.
Et donc, on parle d'expertise. Le mot a été mentionné aussi tout à l'heure, d'obsession. Parfois, les pigistes ont des petites obsessions. Victoire, toi, c'est quoi tes obsessions de pigiste ?
Alors, je commencerai par dire que quand on est pigiste, on a tendance à se disperser. On se lance un peu sur tous les sujets, tu le disais, Zoé. Juste, c'est souvent très fatigant et pas très rentable. Et donc, ça peut être parfois super de se dire, en fait, un article publié dans un journal de presse écrite peut se transformer aussi en podcast. Il peut s'imaginer en documentaire, il peut s'imaginer en BD. Voilà, l'objectif étant de capitaliser un peu sur toutes les personnes aussi qui nous ont donné leur confiance, leur temps, et faire exister un petit peu le sujet en dehors d'un seul et même papier qui peut parfois être un peu frustrant. Sur la temporalité, souvent en plus on y passe du temps, donc on est un peu frustré de se dire que ça existe seulement sur un papier. Il y a une certaine pérennité qui est sympa à cultiver quand on est pigiste.
Et c'est ton cas justement, il y a une thématique que tu as abordée, que tu as déclinée sous différents formats. Tu as fait du podcast, de l'article,
ouais,
peut-être que tu as fait d'autres choses aussi sur ton obsession du moment.
Oui, alors ça a commencé, moi j'ai fait un premier papier pour le supplément L'Époque du journal Le Monde sur les descendants qui ont enquêté sur leurs aïeuls internés en psychiatrie de force dans les années 50 à 70. Et en fait j'ai récolté à ce moment-là pas mal de témoignages, j'étais super frustrée que ça puisse être seulement quelques milliers de signes, et en fait il y avait une histoire qui ressortait qui était assez forte et assez romanesque parmi toutes les histoires que j'avais réussi à trouver, celle de Marie-Hills Bourlange notamment, et on en a fait un podcast donc en fait pour Louis Média qui s'appelle Grand-mère n'était pas folle, où elle raconte en fait toutes les raisons qui n'ont pas été tant évoquées dans son enfance sur l'internement de sa grand-mère et qu'elle a retracées à partir d'archives publiques, archives familiales. Et ensuite, bon, je me suis dit que c'était aussi possiblement un sujet qui était hyper imagé et dont on dispose de quand même assez peu d'archives. Et donc, c'est aussi devenu un sujet pour la revue Dessinée qui va paraître en septembre et qui est un peu plus élargi, mais toujours sur ce thème des femmes qu'on renvoie un peu à leur prétendue folie psychique. Et qui continue aujourd'hui.
Super, on a hâte de découvrir ça et de continuer à découvrir ce sujet-là. Est-ce qu'il y a d'autres obsessions autour de la table, Giovanni, aussi peut-être en ce moment, qui vous taraude ?
De mon côté, moi je fais partie du collectif Enquêto, qui est un collectif qui est très différent de Focus parce qu'on se concentre uniquement sur les pollutions industrielles. Donc tous les membres du collectif travaillent sur ça. Évidemment, on travaille aussi sur d'autres choses, mais le travail qu'on fait dans le cadre du collectif se concentre uniquement sur ça. Donc effectivement, on connaît l'obsession et on connaît le fait de varier les supports et de pouvoir rentabiliser un sujet sur plusieurs rédactions différentes. Et
oui, dans ton collectif Enquêto, donc tout le monde a la même obsession finalement, c'est ce qu'il faut comprendre.
Oui, c'est un peu ça. Après, il y a des personnes qui sont plus focalisées sur les PFAS, d'autres sur les pesticides, d'autres sur le chlordécone. Enfin, ça dépend des, du parcours de vie aussi des gens, mais voilà, on est plutôt focalisé sur ça.
Zoé, tu veux ajouter quelque chose ?
Non, mais je viens de me souvenir, Victoire, qu'on avait... c'était un peu le hasard, mais on s'est retrouvés à toutes les deux bosser sur une obsession qui est quand même assez précise et qui est la viande. Un peu la viande politique, enfin, la figure du viandard, mon saucisson français. Enfin, vous voyez, je pense, le retour, un peu l'investissement politique dans la viande, la consommation de viande et l'identité française. Et ça, c'était un peu à hasard. Et en même temps, je pense, enfin, c'est aussi le fait d'être dans un collectif qui fait que, de manière informelle, là, l'exemple avec Neville, il est un peu romanesque. On est dans cette voiture, on s'est dit, mais travaillons ensemble sur le Blanc-Mesnil. Mais en fait, de manière plus quotidienne, on a plein de petits échanges comme ça. On prend des cafés, on déj le midi et on s'échange des idées, on parle de nos sujets et ça fait circuler les idées. Je pense beaucoup plus que si on était tout seul chez nous sur notre ordi. Voilà, ça, c'était une idée d'obsession qui a été notre obsession commune, par hasard, à un moment.
D'ailleurs, vous pourrez retrouver aussi un extrait ce soir. Il y aura une projection d'extrait de cette obsession que tu as sur la viande. Tu feras une petite présentation, il me semble, Zoé.
Oui, il y a un petit épisode de Programme B de Binge Audio sur ça, qui s'appelle de la série de Thomas Roset, qui s'appelle La mytho des fachos. Il vient de sortir un livre dessus, qui s'appelle « Démasquer et de la viande ». Et voilà, il y a une petite séance d'écoute dessus.
D'accord, donc restez avec nous hein, jusqu'à la fin et au-delà, vous pourrez découvrir tout ça plus précisément. En tout cas, ce qu'on comprend aussi, c'est que les collectifs permettent de nouer des synergies, de nouer des liens, des affinités aussi sur des sujets que vous avez en commun. Giovanni, est-ce que tu as une idée d'ailleurs du nombre de collectifs comme ça qui existent en France, des collectifs de pigistes ?
Bah alors, j'ai lu récemment qu'il y a une quarantaine de collectifs de pigistes actifs en France et le nombre est grandissant, vu aussi la quantité de pigistes qui augmente par rapport au reste du type de salariés qu'il y a dans la profession. Évidemment, travailler en collectif a tous les avantages dont on a parlé, donc pour un pigiste, si on veut rester pigiste plusieurs années, c'est important de travailler en collectif en ce moment.
Oui, et puis il y a différents collectifs donc, qui existent sous différentes formes, qui regroupent, comme on l'a dit tout à l'heure, différentes spécialités ou en tout cas différents formats qu'on peut aborder. Est-ce que, Giovanni, tu connais le collectif Bilim ?
Non.
Eh bien, ça tombe bien, puisqu'on a autour de la table un autre Thomas. Toi, tu fais partie donc de l'équipe de 4e Murmure, mais il se trouve que tu es aussi un des membres fondateurs de ce tout jeune collectif Bilim.
Et oui, tout à fait. Bah, inspiré par nos magnifiques prédécesseurs, dont le collectif Focus ou le collectif Enquêto, on a effectivement décidé de créer notre propre collectif de journalistes et vidéastes indépendants et indépendantes en fin d'année 2025. Et donc, c'est le collectif Bilim, B-I-L-I-M. Avec un petit twist quand même, les 9 membres de Bilim ont toutes et tous une formation en journalisme scientifique, ce qui, à notre connaissance en tout cas, est assez unique dans le petit microcosme des collectifs de pigistes. Donc l'idée derrière Bilim, c'est majoritairement de traiter des sujets à l'interface entre science et société pour des médias spécialisés ou généralistes, parce que ça part aussi du constat qu'il y a peu de journalistes pigistes scientifiques au sein des médias généralistes. Donc chaque membre a ses propres spécialités, ses formats de prédilection, donc l'écrit et la vidéo majoritairement, mais aussi le dessin, voire même le théâtre. Donc comme pour Focus, on a déjà fait des collaborations à plusieurs aussi, à 2, voire 3 pour différents articles. Par exemple, récemment, avec une autre membre qui s'appelle Sian Claire, on a publié un article pour Next sur l'utilisation de l'IA dans l'hôpital public. Sinon, bon, on n'a pas inventé l'eau chaude, hein, comme pour les autres collectifs. L'idée, c'est surtout de se soutenir professionnellement, mais aussi émotionnellement, vu que la pige, c'est précaire. Sinon, ça permet aussi de mutualiser nos ressources, dont nos contacts et du matériel audiovisuel, par exemple. Et pour celles et ceux qui se demandent, parce qu'on a reçu, beaucoup de messages sur nos réseaux sociaux, Bilim, ça veut tout simplement dire science en turc, sous une proposition d'une des membres, Ilona Bouvard, qui est elle-même franco-turque. Donc voilà, allez nous suivre sur nos réseaux.
Ilona, qu'on salue d'ailleurs. Les réseaux, tu l'as dit, collectifbilim.fr.
Exactement.
Je ne sais plus si tu l'as dit, mais en tout cas, ça vaut le coup de le répéter ou de le dire, tout simplement. Merci, en tout cas, pour cette petite présentation du tout jeune collectif Bilim. On peut retrouver toutes les informations donc, sur le site, mais aussi sur l'Instagram.
Et Instagram et LinkedIn, tout à fait.
Instagram, c'est @bilim.
C'est @collectifbilim.
Collectifbilim. Donc, pendant que vous allez y faire un tour de notre côté, c'est l'heure pour une deuxième pause musicale. On se retrouve juste après avec d'autres membres du collectif Focus. À tout de suite.
Si les chiens n'aboient plus, qu'ils me mangent toutes crues, que leur croc décore ma chair. Si les oiseaux chantent faux, qu'ils veulent plus voler haut, que leurs plumes s'effritent en hiver. S'il fait froid sous la couette, que tu perds la tête, que la lune n'éclaire plus rien du tout. S'il fait chaud quand on dort, que les esprits dehors veulent toquer à ma porte sans verrou. Je veux être dans tes bras, je veux être dans tes bras, je veux être dans tes bras quand vient le soir, le ciel s'en va, quand vient le quand le vent aura tout endormi. S'il tient à t'emporter avec lui, je veux être dans tes bras, je veux être dans tes bras, je veux être dans tes bras quand vient le soir, le ciel s'en va, quand vient le. Si les rivières ne savent plus nager, que nos larmes perdent leur couche salée, je veux être dans tes bras, je veux être dans tes bras, je veux être dans tes bras quand vient le soir, le ciel s'en va, quand vient le. Si les monstres qui logent sous mon lit ne veulent plus jamais partir d'ici, il y a des monstres sous mon lit. Regarde des monstres dans le monde, regarde des monstres. Voilà. Et moi, je veux être dans tes bras, je veux être dans tes bras, je veux être dans tes bras quand vient le soir, le ciel s'en va. Je veux être dans tes bras, je veux être dans tes bras, je veux être dans tes bras quand vient le soir, le ciel s'en va, quand vient le. Si la marée descend, que les poissons en sang s'enfouissent dans le sol sans raison. Si nos dents se déchaussent, que nos plaies se réchauffent et s'infectent face au soleil brûlant. S'il fait fondre nos corps pour quelques poignées d'or dissous en cendres dans la mer. S'il fait nuit pour toujours, que nos chansons d'amour deviennent des suppliques, des prières. Je veux être dans tes bras, je veux être dans tes bras, je veux être dans tes bras quand vient le soir, le ciel s'en va.
On vient d'écouter « Je veux être dans tes bras » de Alma Rechtmann sur Radio Campus Paris.
Quatrième murmure sur Radio Campus Paris.
On est toujours sur le plateau de Quatrième murmure en direct du 193 au Pré Saint-Gervais. Nous sommes en public et justement, cher public qui s'installe dans la salle, on aimerait bien ce soir te proposer de jouer avec nous. Alors, est-ce qu'il y a des personnes du public qui sont joueuses ce soir? Je vois un Sacha qui est joueur. Sacha, tu es le seul joueur ce soir ou il y a d'autres personnes? Très bien, donc on va pas faire passer de micro, mais ça va être à l'applaudimètre ou à la voix. Donc vous pouvez crier aussi fort que vous le souhaitez. Cléo, je crois que tu as préparé un petit jeu, c'est ça ?
Ouais, on s'est dit qu'on allait vous faire un condensé des perles, des petites dingueries reçues par les membres du collectif Focus de la part des rédacteurs et rédactrices en chef. Merci au collectif de m'avoir fait ces quelques confidences d'ailleurs. Et donc je m'adresse à vous, le public, je vais vous faire des propositions et l'idée c'est de deviner à chaque fois quelle situation est vraie. Je précise quand même que ça reste anonyme et qu'on ne va pas demander au collectif de témoigner après les propositions pour des raisons évidentes. Première question. Il arrive que les délais pour rendre les articles soient un peu courts. Ce ou cette journaliste a reçu un message du rédac-chef lui demandant une V2 de son article. A. 2 mois plus tard. B. 10 minutes après l'envoi de la V1. C. Le soir du match PSG-Arsenal. Pas ouf. Et D. Le jour de Noël. Donc, je ne sais pas si on fait à l'applaudimètre ou si vous pouvez lever la main. Pour...
Qui pense que c'est...
Qui pense que c'est 2 mois plus tard ? Vous pouvez lever la main. Ok. Personne. Qui pense que c'est 10 minutes après l'envoi de la V1 ?
Il y a quelques personnes.
Qui pense que c'était le soir du match PSG-Arsenal ? Et le jour de Noël ? C'était bien le jour de Noël.
Waouh.
Prochaine anecdote. Alors cette fois-ci, il va y avoir 2 bonnes réponses. Les journalistes donc pourront en témoigner. Il n'est pas toujours facile de convaincre le média de prendre son sujet. Ici, ils et elles ont bien reçu une réponse à leur synopsis, mais plutôt pour décliner la pige. Comment les Red Chefs ont-ils formulé leur refus de prendre le sujet ? Je rappelle qu'il y a 2 vrais, donc vous pouvez voter 2 fois. Réponse A. Oups, pas vu ton mail. De toute façon, c'est un sujet vu et revu. Petit B. Ça me fait monstrueusement chier de prendre ton sujet. Petit C, l'angle est trop politique, tu comprends, j'espère. Et D, désolé, je ne réponds jamais aux mails parce que je ne suis pas un mec de l'oral, je cite. Donc,
il y a 2 bonnes réponses.
Ouais, il y a 2 bonnes réponses. Qui vote pour « Oups, je n'ai pas vu ton mail, de toute façon, c'est un sujet vu et revu ». Qui vote pour B, « Ça me fait monstrueusement chier de prendre ton sujet ».
Il y a quand même des personnes. Hein, ouais.
On sait jamais. Qui vote pour C, l'angle est trop politique, tu comprends, j'espère. Et D, désolé, je ne réponds jamais aux mails parce que je ne suis pas un mec de l'oral. Parce que je suis un mec de l'oral, pardon. Non, c'était bien, ça me fait monstrueusement chier de prendre ton sujet. Et je suis un mec de l'oral. Sinon, dans le style prévenir au dernier moment, il nous reste des perles. Un membre du collectif m'a confié qu'un chef de service l'avait appelé un jour, à 23h, déjà c'est bof. Un vendredi soir, c'est vraiment pas ouf. Et pour une commande, le lendemain à 7h30. Pas top. Comment ce journaliste a-t-il réagi à cette demande last minute, d'après vous ? A. Il a continué de siroter son verre en terrasse. B. Il a refusé immédiatement. L'événement prévu le lendemain était connu depuis plusieurs semaines. C. Il a prétexté une urgence familiale. D. Ce n'était pas la première fois. Il a donc décidé de dévoiler les pratiques du média dans un post LinkedIn le lendemain. Oh. Spicy. Alors, qui pense que la personne a continué de siroter son verre en terrasse, tranquille ? Qui pense qu'il a refusé immédiatement ? Ben, on sait que c'est pas possible, ouais. On peut pas se le permettre. Qui pense qu'il a prétexté une urgence familiale ? Personne. Et qui pense qu'il a fait un post LinkedIn pour dénoncer ? Alors, je vous confirme que la personne a continué de siroter son verre en terrasse. Ce qui n'empêche pas qu'il est rentré, j'imagine, chez lui pour faire le papier. Bon, je lui demanderai après. Il nous reste encore du temps. Un des journalistes était en reportage dans un pays avec une situation politique tendue et a donc demandé à son red chef de lui envoyer un document pour le protéger d'une éventuelle arrestation dans ce pays. Comment le Red Chef a-t-il réagi ? A. Il lui a envoyé un document vierge à remplir lui-même, accompagné d'un « faisant bon usage ». B. Il lui a envoyé le mauvais document. Il s'agissait d'une V2 d'un article prévu pour le prochain numéro. C. Le Red Chef a contacté lui-même les autorités nationales. D. Il ne lui a tout simplement pas répondu. Qui pense que c'était un document vierge à remplir soi-même ? Qui pense que ce n'était pas le bon document, mais un vieil article ? Personne. Qui pense que le Red Chef a contacté lui-même les autorités nationales pour s'occuper de la situation ? Personne. Eh ben. Qui pense qu'on ne lui a pas répondu ? Alors, je vous confirme que c'était donc bien un document vierge à remplir soi-même, accompagné d'un cynique faisant bon usage.
C'est une page blanche.
Oui, sûrement une page blanche. Ouais. Et on arrive à la dernière question. Alors, une Red Chef a appelé en panique une personne du collectif, car elle avait besoin de quelqu'un pour un tournage 2 jours plus tard. Le ou la journaliste s'est adaptée, a changé son emploi du temps et s'est rendu dispo. La veille au soir, Yael apprend que la boîte annule sa prestation. Comment lui a-t-on annoncé ? Réponse A. Ils ont envoyé le stagiaire pour lui annoncer qu'ils avaient trouvé une solution en interne. Réponse B. Ils lui ont dit « Désolé, on s'est débrouillé. Au plaisir de travailler avec toi. » Petit C. Yael l'a appris via un autre média convié à l'événement. Petit D, son nom ne figurait plus sur le programme, donc c'était plutôt explicite. Qui penche pour la réponse A ? On lui a envoyé le stagiaire pour lui dire qu'ils avaient trouvé une autre solution. Personne dans la salle. Qui penche pour le « Désolé, on s'est débrouillé, mais au plaisir de travailler avec toi. » Pas mal de monde. Qui pense qu'elle l'a appris, il ou elle l'a appris, d'un autre média convié à l'événement ? Personne. Et qui pense qu'elle en a déduit qu'elle n'était plus conviée parce que son nom ne figurait plus sur le programme. Un peu de monde quand même. Non, c'est bien le stagiaire qui a été envoyé pour lui dire que c'était pas possible. Voilà. Et c'était ma dernière question. Je peux vous en lire une ou deux si un peu de temps, sans que ce soit une question, c'est juste un témoignage.
Vas-y, Cléo, vas-y.
Qu'est-ce qui me reste ? On m'avait dit. Alors, anecdote. La fois où cette chef de rubrique m'a demandé si je comprenais bien que le feu de Notre-Dame de Paris était un moment historique. Et la dernière que j'ai. C'était la fois où cette chef de rubrique m'a demandé pour qui je travaillais lorsqu'elle a appris que j'avais proposé le sujet à un autre magazine. C'est le concept de pigiste qui n'avait pas dû être bien compris.
Merci Cléo pour avoir préparé ce petit jeu. Et puis merci aussi pour les témoignages précieux. On espère que déjà ce petit jeu vous a plu et que ça vous donne aussi un meilleur aperçu de ce qu'est la vie de pigiste. Est-ce que d'ailleurs dans la salle, il y a des pigistes qui ont une anecdote comme ça, un peu croustillante à nous partager ? Si vous avez envie d'en parler, bien sûr. Pas d'obligation, personne n'a envie de se livrer et je vous comprends. En tout cas, l'émission n'est pas finie. Loin de là, d'ailleurs, on continue avec Giovanni Simone de l'association Profession Pigiste et avec de nouveaux membres du collectif Focus. Donc Victoire, tu restes avec nous, mais maintenant tu es accompagné de Neville et de Mélie. Bonsoir à tous les deux.
Salut.
Bonsoir.
Alors la pige, c'est souvent subi par les journalistes qui voudraient être en rédaction et qui n'y arrivent pas, mais c'est aussi pour beaucoup d'autres journalistes un choix, c'est un mode de vie, un choix politique aussi. Et globalement autour de la table, je crois qu'on est avec des journalistes qui ont fait ce choix d'être pigiste. Neville, toi par exemple, c'est un choix conscient et presque politique que tu as fait d'être pigiste.
Alors je vais un peu tempérer et dire oui et non. Et comme tu l'as dit avant, c'est vraiment spécifique à chaque pigiste. On n'est vraiment pas tous et toutes pareils dans le collectif. Je sais qu'il y en a, c'est vraiment un engagement, qui ont envie d'être à la pige, envie de garder une certaine liberté, et d'autres pour qui c'est plus subi. Moi je dis oui et non, je vais commencer par le non. C'est que je pense que déjà financièrement et en termes de conditions de travail, c'est évident que c'est plus confortable de bosser dans un média. Et politiquement aussi, je trouve qu'il y a plus de sens à le faire. Financièrement et en termes de conditions de travail, bon, on en a déjà parlé, de la précarité, du fait qu'on ne sait pas à la fin du mois le salaire qu'on va avoir d'un mois sur l'autre. Quand on veut partir en vacances, quand on travaille pas pendant plusieurs semaines, on n'a pas de revenus, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Et en termes de conditions de travail, si on veut vraiment faire du journalisme à fond, creuser nos sujets, pouvoir s'y consacrer entièrement, c'est plus confortable d'être en rédaction, parce que quand on est à la pige, il y a fatalement toujours une partie de notre semaine de travail qui est consacrée à autre chose en fait que le journalisme. Déjà tout le travail administratif qu'on a à faire en plus du journalisme, parce qu'on cumule tous et toutes plusieurs statuts salariales, d'auto-entrepreneurs, d'artistes-auteurs. On est aussi parfois inscrit à Pôle emploi, France Travail maintenant, à la CAF, et c'est des charges administratives qui sont assez lourdes. Et il y a aussi tout le travail pour vendre nos sujets, qui prend beaucoup de temps, où on doit contacter les rédactions au quotidien, leur demander s'ils sont intéressés pour publier l'article qu'on veut faire, et parfois ça fonctionne pas, ils veulent pas de cet article, donc on a travaillé pour rien. Donc à ce niveau-là, en termes de journalisme pur, quand on est en rédac, c'est beaucoup plus simple, en fait, on se consacre à ça tous les jours, au quotidien, et c'est quand même beaucoup plus confortable. Et sur l'aspect politique, je trouvais aussi que d'être dans un média dans lequel on se retrouve en termes de ligne éditoriale, ça permet aussi d'avoir déjà d'assister aux conférences de rédaction et de pouvoir discuter avec les autres membres de la rédaction, avoir des discussions politiques et pouvoir essayer d'influer sur la ligne éditoriale du média, de construire collectivement en fait cette ligne éditoriale. Quand on est pigiste, on n'a pas la main là-dessus. Donc à ce niveau-là, je trouve que ça peut être plus intéressant d'être en CDI dans un média. En revanche, pour ma part, j'accepterais d'être en CDI uniquement dans un média indépendant et qui défend des valeurs progressistes, on va dire globalement, même si c'est un mot un peu fourre-tout. Et en fait, ces médias-là, ça élimine pas mal de médias, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est des médias qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui recrutent très peu. Donc les places sont hyper chères. Et donc le choix, par contre, c'est en attendant d'avoir un jour peut-être une opportunité dans un de ces médias, je préfère être pigiste et garder cette indépendance qu'aller travailler dans un média avec lequel je ne partage pas forcément certaines valeurs et la ligne éditoriale, ou qui appartient à des actionnaires privés ou des choses comme ça.
Ce qui permet aussi d'ailleurs, en attendant aussi, de pouvoir gérer ton temps, gérer un peu la façon dont tu gères, enfin je dis tu, mais en fait tous les pigistes aussi qu'il y a autour de la table, l'organisation de la semaine, les liens aussi qui peuvent exister avec différents médias. On peut se retrouver dans des médias indépendants sans pour autant, dans plusieurs médias indépendants, donc être à cheval sur plusieurs, c'est aussi potentiellement intéressant, et qui défendent aussi des lignes politiques, des lignes éditoriales,
Oui, tout à fait, ouais, je partage complètement ce que tu dis. Et l'avantage quand même quand on est à la pige, c'est cette liberté dont tu parles de l'emploi du temps. On n'a pas d'horaire de bureau, on n'a pas de patron qui attend qu'on arrive au travail le matin, parce que même si on bosse dans des médias de gauche, des médias indépendants, c'est quand même le monde de l'entreprise. On a des horaires de bureau, on vient bosser de 9h à 18h au moins tous les jours. On a des comptes à rendre à des gens. Là, on a des comptes à rendre seulement aux médias qui nous achètent nos articles, au coup par coup, quand on vend un article. Donc ça nous donne quand même une liberté au quotidien. On prend nos vacances quand on veut. On a moins de pression à certains endroits, mais on a plus de pression à d'autres, financièrement, sur d'autres sujets. Mais c'est quand même un confort au quotidien.
Giovanni, d'ailleurs, est-ce qu'il existe des statistiques, des chiffres qui montrent le taux de journalistes pigistes qui ont choisi véritablement de l'être versus ceux qui le subissent davantage ?
Alors non. Déjà, les statistiques que j'ai données au début, c'est les statistiques de la commission de la carte de presse. En réalité, qui disent qu'il y a 34 000 journalistes en France. En réalité, c'est que les journalistes qui obtiennent la carte de presse. Eurostat, par exemple, parle de 140 000 journalistes en France. Donc, c'est pour te dire à quel point on est dans le flou par rapport à la quantité de journalistes, et d'autant plus, on ne peut pas savoir quels sont leurs choix ou ce qu'ils subissent. Je vais simplement dire qu'à profession pigiste, on est là pour faire en sorte que toutes les personnes qui se retrouvent à travailler à la pige, que ce soit un choix ou quelque chose qu'elles ont subi, puissent le faire profitablement et avec leurs droits qui sont garantis au minimum, quoi. Mais on espère aussi qu'ils gagnent de mieux en mieux dans les prochaines années leur vie et qu'ils puissent trouver leur compte dans l'indépendance. Comme disait Neville, effectivement, il y a beaucoup d'avantages à être journaliste pigiste et entre autres aussi le fait d'être indépendant et de pouvoir être sa ligne éditoriale à soi tout seul. C'est pas trop mal.
Et un discours qu'on retrouve aussi régulièrement chez les pigistes, Neville, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'idée donc de faire ce choix d'être à la pige pour le moment en attendant potentiellement de se faire recruter par un média qui voudrait bien de nous et qui correspond aussi à nos valeurs. Mélie, je crois que c'est aussi ton cas, c'est ce que tu me disais en off, c'est que potentiellement, à terme, un jour, éventuellement peut-être, qui sait, tu aimerais être recruté en CDI et ne pas forcément rester à la pige.
C'est ça. Après, je rejoins vraiment pas mal Neville sur le fait que, en fait, tant que j'ai pas trouvé un média auquel je crois, avec une ligne éditoriale forte, avec vraiment, des valeurs auxquelles j'adhère, j'ai pas du tout envie de rejoindre une rédaction juste pour rejoindre une rédaction. Après, c'est clair que le problème de la pige, c'est la difficulté à se projeter sur le long terme. Et ça, c'est quelque chose qui, au quotidien, peut vraiment affecter, en fait, la santé mentale, tout simplement. Les difficultés à se dire, est-ce que je peux déménager? Est-ce que je peux faire cet achat-là? Peut-être même le fait d'avoir des enfants à un moment. Enfin, c'est ça qui est dur, je trouve, dans la pige. C'est qu'on peut voir à 1, 2 mois, 3 mois, peut-être, mais vraiment pas plus. Et donc aujourd'hui, moi j'aime beaucoup être à la pige, je suis extrêmement fière d'être à la pige et je fais vraiment les sujets que j'aime pour des médias auxquels je crois, que j'aime aussi. Mais c'est vrai que en fait, il y a des jours où je me sens vraiment à l'endroit au bon endroit et que je fais les bonnes choses, et il y a des jours où je me sens nul, quoi, où je sens que je vais pas y arriver, où ça va être trop compliqué. Et donc je pense que la difficulté, c'est de trouver un équilibre dans cette incertitude, et il faut vraiment pouvoir quand t'es au top de la vague, t'es trop contente, et puis quand t'es tout en bas, il faut serrer les dents. Je pense que c'est le cas pour tous les métiers indépendants, en fait, au final. Et du coup, aujourd'hui, je serai prête à rejoindre un média, mais auquel je crois. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus.
Victoire, je te vois approuver tout ce que dit Mélie et ce que disait aussi d'ailleurs Neville juste avant. Comment tu te retrouves dans tous ces mots-là, toi ?
Alors, je les rejoins sur quasi tout. J'ajoute toujours en expliquant aux jeunes pigistes, moi ça fait pas du tout très longtemps, ça fait seulement 3 ans, mais je dis souvent que c'est une relation aussi assez toxique, c'est-à-dire que la pige, ça peut très bien se passer pendant 3 mois, ensuite il y a un petit down, et quand on se dit bon allez, on va se rediriger vers quelque chose de plus stable, tout à coup l'horizon est plus préférable et on se dit non mais en fait on reste, et donc on a un petit peu du mal à tenir sur le long terme. Mais oui, c'est un sport d'endurance. Je pense que c'est aussi hyper important de rappeler que parmi tous les journalistes qui intègrent ce métier, on n'est pas tous socialement au même niveau. C'est-à-dire qu'il y a aussi des moments en tant que pigiste, et je pense que c'est partagé par beaucoup de membres de Focus, de se dire est-ce qu'on se met à l'abri sur le moyen ou long terme. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien se dire là, ça fonctionne, ça fait 3 ans que ça marche, on vend des articles, on est ravis. Pour autant, est-ce que dans 5 ans, où est-ce que je suis? Vraiment, je rejoins Mélie sur la capacité à se projeter et qui peut évidemment avoir des conséquences sur tous nos pans de vie intimes, les plus intimes même. Et voilà, donc je pense que plus que de se voir quelque part d'ici 5 ans, c'est plus d'essayer de gérer ça, cette espèce d'imprévu et cette imprévisibilité sur du long terme. C'est assez difficile, mais c'est quand même une liberté qui est aussi folle.
Et je voulais rebondir aussi sur le fait que être dans cette incertitude et en fait c'est aussi quelque chose de quand même privilégié. Beaucoup de pigistes, enfin beaucoup de journalistes de manière générale viennent de milieux dans lesquels ils peuvent se permettre en fait cette incertitude, cette précarité. Ce qu'on voit avec les chiffres, c'est que la plupart des journalistes qui viennent de milieux précaires, qui n'ont pas de filet de sécurité, qui n'ont pas des parents au cas où s'il y a un problème pour payer le loyer, ils peuvent pas en fait faire de la pige, ou alors ils doivent faire vraiment un métier à côté à mi-temps, et c'est une vraie réalité. Et du coup, moi, si aujourd'hui je peux faire de la pige, c'est parce que je sais que j'ai des garde-fous. Mais si j'avais pas ces garde-fous-là, si j'avais pas cette chance de venir d'un milieu plus privilégié que d'autres, j'aurais pas pu en fait être journaliste pigiste. Donc c'est important de le rappeler que c'est aussi c'est quelque part quelque chose de privilégié de pouvoir se dire bah 1, 2, 3 ans, ça va pas être fou mais je vais tenir. C'est des choses que des personnes ne peuvent pas se permettre.
Oui, vous touchez du doigt un sujet important qui est ceux et celles qui restent à la pige sont celles et ceux qui peuvent se le permettre. D'ailleurs, Giovanni, est-ce qu'il y a une observation comme ça ? Est-ce qu'il y a une reproduction sociale en fait qui existe et qui est observée chez les pigistes de façon générale ?
Alors, je dirais qu'il y a une reproduction sociale de façon globale dans le métier des journalistes. Je dirais pas que les pigistes sont plus dans la reproduction que les autres. Si on observe les rédactions installées et les personnes qui détiennent le pouvoir dans les médias. Après, effectivement, c'est, comme disait Mélie, c'est compliqué de pouvoir choisir de rester dans l'incertitude si on n'a pas forcément des filets de sécurité. Et il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, commencent la pige en ayant le chômage et qui arrivent à se bricoler une espèce d'intermittence sans que ce soit vraiment de l'intermittence. Donc, par exemple, c'est une des réflexions qu'on peut avoir quand on discute au sein de profession pigiste. Est-ce qu'on va défendre à l'avenir éventuellement un statut proche de celui de l'intermittence sans que ce soit vraiment de l'intermittence ou pas? Là, c'est des discussions politiques qu'on a. Mais c'est certain que la condition du travail du pigiste n'est pas évidente à tenir sur le long terme si on n'a pas des filets de sécurité.
D'où l'importance, et on y revient, on est à la soirée Focus, hein, on le répète, l'importance des collectifs. Pour se soutenir, vous avez parlé de santé mentale, c'est aussi à ça que ça sert. Zoé, on a parlé un petit peu de la joie des collectifs, des moments joyeux que permettent les collectifs. Comment est-ce que vous mettez ça en place justement chez Focus pour faire front dans la joie face à toutes ces difficultés ?
Je me permets de commencer. Moi, avant de rejoindre Focus, j'ai passé 6 mois de désert absolu où j'ai réussi à rien vendre, à vraiment rien du tout produire. Et j'étais dans un état psychologique vraiment compliqué. Et le fait de rejoindre Focus m'a vraiment fait du bien, dans le sens où je suis sortie de ma chambre, je suis sortie de ma solitude. Et j'avais des bureaux dans lesquels j'allais rencontrer en fait des espèces de collègues, mais des collègues avec qui il n'y a aucun lien de hiérarchie, avec lesquels il y a vraiment une égalité, mais quel que soit le niveau d'expérience et quel que soit notre âge aussi. Et en fait, ça m'a fait un bien fou de ne plus être toute seule à me dire « mais j'y arrive pas parce que je suis nulle ». Non, j'y arrive pas parce que c'est difficile, en fait, ce qu'on fait. Parce que le marché, le journalisme, c'est vraiment un milieu dur, cruel presque. Et là, on est ensemble, on partage des réalités qui peuvent être similaires. Et du coup, ça m'a soulagée et ça m'a vraiment sortie de ces moments de réel désespoir, quoi. Et en plus, dans une ambiance franchement vraiment agréable. Et puis c'est vrai, je me suis sentie tout de suite à ma place, tout de suite accueillie. Et je pense que c'est aussi une chance, quoi, d'avoir tous ces gens et avec qui ça... Je sais pas, c'est naturel, quoi. Je saurais pas comment le dire, mais il y a quelque chose de simple et d'ultra rassurant, comme une famille bis. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien.
Vous avez l'air d'accord, Neville, Victoire.
Oui, je suis complètement d'accord avec ce que dit Mélissande. Et en plus, moi, c'était une situation un peu différente quand je suis rentré à Focus. Pour le coup, j'ai eu la chance d'entrer vraiment au moment où je me suis lancé à la pige. Avant, j'étais en CDD dans un média et j'avais pas vraiment pigé. Et du coup, dès le début, d'être entouré par des journalistes pigistes plus chevronnés qui connaissent déjà les ficelles de la pige, du monde administratif qui va avec et tout. Vraiment, c'est un confort au quotidien d'avoir toujours quelqu'un à portée de main pour poser la question. Ça, c'est vraiment top. Et après, en termes d'organisation, sur la question que tu posais au début, en termes sur la santé mentale, l'entraide, on n'a rien de très formalisé, en fait, dans le collectif. Mais moi, j'aime bien bosser chez moi. J'ai mon petit bureau, je bosse bien. Et quand je viens au collectif, c'est que j'ai envie de voir les autres, voir du monde, pouvoir discuter. Et ces moments-là, ils se font surtout le midi, en fait. On mange ensemble dans les canapés du 193, là, qui sont à côté. Et souvent, nos repas le midi se partagent en bureau de pas de pleurs, mais on partage nos petites mésaventures, nos doutes, notre trop-plein avec certains médias, avec certaines piges qu'on n'arrive pas à terminer. Et vraiment, à chaque fois, ça fait beaucoup de bien.
J'aurais envie d'ajouter qu'en fait... Ah, il y a un petit... Ouais, c'est bon. J'aurais envie d'ajouter qu'on essaye de reproduire un peu les mécaniques d'une rédaction, mais en mieux, c'est-à-dire sans hiérarchie, comme le disait Mélie. En fait, très concrètement, c'est... je viens de finir un article ou un pitch, j'ai aucune certitude parce qu'en fait, j'ai la tête dans le guidon, j'en ai rendu 5 ce mois-ci, j'ai plus trop confiance. Ben, en fait, on va se faire relire les articles, on va muscler les pitchs, on a un canal WhatsApp réservé à ça où en fait, on met en commun, nos contacts, nos codes d'abonnement, parce que pareil, s'abonner à la presse indépendante et à la presse tout court, ça coûte cher, mais vraiment se faire relire des pitchs pour prendre en confiance ou parfois même se confronter au fait que bah, ça serait plus sympa d'ajouter tel angle ou de le réorienter, etc. Donc voilà, reproduire les mécaniques d'une rédaction sans hiérarchie, ça donne presque peur de se dire qu'un jour, peut-être, on va devoir retrouver ce monde de l'entreprise. mais ouais, peut-être que Mélie, tu veux...
C'est juste, bon là on est un peu dithyrambique, mais je voulais aussi ajouter les limites quand même de ce mode d'organisation. On est en organisation autogérée, donc ça veut dire que c'est un peu le groupe qui va décider de quelles décisions prendre. Des fois les décisions prennent du temps, des fois ça tient aussi à la résilience de quelques personnes quand il y a des enjeux compliqués au sein du collectif, quand vraiment des questionnements auxquels on a besoin d'avoir des réponses rapidement, en fait on arrive aussi à la limite des fois de l'autogestion et ça nous demanderait parfois d'avoir un petit peu plus de structure. Mais c'est vrai que ça fonctionne aujourd'hui. Après, il y a une réflexion à avoir sur comment peut-être pousser la chose un peu plus loin, parce que l'autogestion, ça se fait pas comme ça tout seul. C'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose de naturel. Je pense que c'est des modes de gouvernance qu'il faut réfléchir et des fois, faut aller un petit peu plus loin que juste celui qui est motivé s'en occupe. Il y a un moment, tout le monde est crevé, tout le monde est précaire, et peut-être celle ou celui qui est motivé, il n'a pas cet espace-là. Et à ce moment-là, comment on fait pour gérer une crise ? Et donc, ce serait un peu les limites que je vois dans le type d'organisation qu'on a. Aujourd'hui, ça roule et j'espère que ça continuera en tout cas.
Et donc le chantier est en cours, peut-être que ça évoluera dans le bon sens. On comprend en tout cas qu'il y a des joies, malgré peut-être certaines limites de l'auto-organisation. Parmi ce qu'apporte aussi Profession Pigiste, Giovanni, il y a plein de guides, des outils qui sont mis à disposition des pigistes. Est-ce que tu as des petits exemples ? Tu parlais par exemple de France Travail tout à l'heure, il y a un guide spécialement pour aider les pigistes à remplir les documents.
Alors, on est à disposition pour toute question, pour tous les adhérents peuvent contacter à tout moment le CA de Profession Pigiste et les réunions sont ouvertes. Et sur le site de Profession Pigiste, il y a l'abécédaire de la pige avec le plus possible de choses expliquées sur comment fonctionne la pige point par point. Il y a le site Paye ta pige qui a été créé par Nora Boisouni il y a 7 ans il me semble, où sont recensés le mode de paiement et la quantité d'argent qui rentre pour chaque pige selon les différents médias, et on a un groupe Facebook qui compte 6600 adhérents où on essaye de ne pas faire entrer les rédacteurs en chef. Donc même s'il y a des journalistes qui ont rejoint le groupe Facebook en tant que pigistes, ensuite sont devenus postés, ensuite sont devenus rédacteurs en chef, on essaye de les exfiltrer. Donc il y a de la liberté de parole et des échanges entre pigistes et entre journalistes francophones.
Et parmi les pigistes, les autres pigistes qu'il y a autour de la table, est-ce que vous avez des petits outils, vos outils préférés, vos outils, vos documents qui vous ont sauvé parfois pour remplir des documents administratifs par exemple ou autres ?
Peut-être je commence avec un total contre-exemple. Moi je peux faire une veille qui est super random où je me dis ce matin je vais sur France Bleu et je vais dans la catégorie Centre Val-de-Loire et je vais regarder ce qui est sorti dans les dernières 24 heures. Enfin, voilà, peut-être Neville et Mélie, vous avez des outils un peu plus... moi je me laisse aller à ma curiosité et parfois ça fait des miracles.
Des outils ou des routines d'ailleurs ?
Moi en termes d'outils, j'avais en fait un de mes colocs qui était indépendant depuis un moment et en fait je lui ai tout demandé de comment il s'organise, sur quelle plateforme est-ce qu'il fait ses déclarations, et du coup j'ai juste demandé autour de moi un petit peu comment est-ce que les gens qui sont sous le statut indépendant ou auto-entrepreneur s'en sortent. Sinon, j'ai pas vraiment d'outils précis. C'est vrai que Profession Pigiste, c'est vraiment une asso qui m'a beaucoup aidée. Moi, je me suis lancée à la pige, vraiment toute seule, il y a 4 ans. Et j'étais allée aux 48 heures de la pige, on en parlera tout à l'heure. Et là, j'ai appris que j'avais des droits en tant que pigiste. J'ai appris que ces droits, il fallait que je les revendique et que j'accepte pas tout et rien. Donc, pour moi, les techniques, c'est vraiment d'être en collectif, d'aller vers des groupes, des associations. Je fais aussi partie de plein d'autres associations qui proposent, par exemple, des voyages de presse. C'est grâce à l'association des JNE, les journalistes écrivains pour la nature et l'environnement, et l'écologie, pardon, que j'ai pu partir au Brésil pour la COP30, qui m'ont financé une grande partie de mon voyage. Je suis aussi partie, grâce à eux, à Barcelone pour traiter des enjeux de désalinisation et d'accès à l'eau potable. Et en fait, rejoignez des collectifs, rejoignez des assos, c'est pour moi le meilleur tips que possible, quoi.
Le message est passé. Allez, on fait une troisième et dernière pause musicale. Ne bougez pas, on se retrouve juste après sur Radio Campus Paris. Toujours sur Radio Campus Paris, on vient d'écouter « Ma mère, c'est mon père » de Yasmine.
Quatrième murmure sur Radio Campus Paris.
On se dirige doucement vers la fin de l'émission et pour cette dernière partie, on accueille donc de nouveau Noujoud. Mélie, toi tu es restée avec nous et puis surtout on accueille Jérémy. Salut Jérémy. Alors avec vos camarades, on a parlé beaucoup du métier de pigiste, de ce que ça implique. On a aussi parlé de la façon dont les collectifs de pigistes peuvent aider à s'y retrouver dans ce monde impitoyable. Parce qu'on l'a dit, être pigiste, c'est souvent se heurter à une certaine précarité, ce qui pousse souvent à se diversifier et à explorer des activités complémentaires. Alors autour de la table, justement, je crois que vous misez aussi sur différentes formes d'activités. Par exemple, Mélie, tu animes des ateliers d'éducation aux médias. Peut-être que d'autres personnes, d'ailleurs, le font aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe et ce qui t'intéresse dans cette activité ?
Oui, bien sûr. Donc, j'anime des ateliers d'éducation aux médias depuis 5 ans maintenant. En fait, j'étais déjà médiatrice avant d'être journaliste. Et le but, c'est vraiment d'aller dans différentes structures, enfin de travailler pour des assos ou des structures, et de faire des ateliers dans lesquels on explique un petit peu le métier de journaliste à des jeunes. Donc ça peut aller vraiment de la primaire jusqu'aux jeunes étudiants, voire des publics adultes. Et il y a différentes manières de le faire. On peut faire à travers des ateliers radio. Noujoud pourra en parler un petit peu plus parce qu'elle en pratique beaucoup. Moi, je fais aussi des ateliers avec la Cité des Sciences où on construit des petits reels Instagram avec des collégiens, par exemple. Voilà, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être des ateliers d'écriture. Ça peut être des projets de photographie. Et le but, c'est vraiment, à travers le faire, essayer de faire comprendre au public qu'est-ce que c'est en fait de produire de l'information, qu'est-ce que c'est de créer du contenu informatif, quelle est la déontologie. Et moi, en fait, ce qui me plaît énormément dans cette activité-là, c'est le contact avec le public. C'est-à-dire que des fois, quand on est pigiste, on peut se retrouver derrière notre ordi à écrire notre article, faire notre montage et être un peu déconnecté de comment ça va être reçu. Et là, quand on est avec les publics, il y a un truc de très concret. Il y a quelque chose qui est vraiment, j'ai des jeunes en face de moi. Où est-ce qu'ils s'informent? Est-ce que je leur dis ça leur parle? Comment est-ce que je peux les inspirer? Comment est-ce que je peux les pousser à avoir des meilleures pratiques informationnelles et à mieux s'armer face à la montée de l'extrême droite, face à vraiment la concentration des médias? Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans mon métier, de politique et aussi d'ultra satisfaisant. Et quand on voit des petits jeunes qui viennent à la fin et qui nous disent moi j'aimerais bien faire comme toi, t'as fait quelles études, ou alors j'ai trop aimé, je pensais pas que les médias c'était comme ça, je pensais pas que ton métier c'était faire ça, en fait c'est hyper gratifiant. Et en plus c'est on a l'impression d'avoir servi à quelque chose et d'avoir transmis une sorte de passion, et ça pour moi c'est essentiel. Mais je pense que Noujoud a pas mal de choses à dire là-dessus.
Noujoud, oui, tu approuves donc?
Oui, j'approuve tout ce qui a été dit. Je sais pas si je vais rajouter beaucoup de choses parce que Mélie a été assez complète, mais moi j'imagine pas ma pratique du journalisme sans l'éducation aux médias. Pour moi c'est impensable, dans le sens où déjà ça fait partie de mon temps, c'est-à-dire que je donne vraiment beaucoup de temps à l'éducation aux médias, et c'est un plaisir parce que c'est dans ces moments-là aussi que je me sens, comme disait Mélie, super utile et à ma place d'une certaine manière, parce que je pense que c'est à nous journalistes aujourd'hui d'aller vers le public et pas le contraire, surtout des publics qui sont isolés ou des jeunes. Moi j'ai vraiment travaillé avec absolument tous les publics, des enfants jusqu'aux personnes âgées, et il y a quelque chose qui me stimule vraiment, et il y a dans l'échange j'apprends beaucoup, en fait j'espère transmettre des choses, mais j'apprends énormément aussi. Et c'est vraiment un échange, moi je le vois vraiment comme ça, et je pense que c'est très important dans notre pratique, nous en tant que journalistes, de le faire pour celles et ceux qui ont envie, évidemment, mais moi j'imagine pas ne pas le faire, quoi.
C'est ça. Et si je peux compléter aussi, c'est ça nous permet de comprendre les enjeux informationnels de public dont on serait très loin, et de se rendre compte en fait ce super sujet que je pensais traiter comme ça, c'est complètement déconnecté des enjeux des adolescents ou de certains publics. Et du coup ça permet aussi d'avoir, je pense, un meilleur radar de la société de manière générale. Et puis moi la transmission c'est quelque chose qui m'a toujours plu, je donne des cours depuis que j'ai 17 ans, et ça me permet vraiment de rester en contact avec avec la génération qui arrive. Enfin, ça fait ultra vieux de dire ça, j'ai que 30 ans, mais ça me semble être un essentiel dans le métier de journaliste pour rester connecté, un peu les pieds sur terre, quoi.
Jérémy, toi, quelle est ta pratique? Tu donnes aussi des ateliers d'éducation aux médias?
Alors moi, je donne assez peu d'ateliers d'éducation aux médias. Il m'arrive de donner des stages de photos. Moi, je suis photographe, et dans ma pratique, en fait, ce que je fais à côté, enfin comme mes camarades, j'en arrive aussi à la conclusion que c'est assez difficile de vivre uniquement du journalisme. Mais moi, je fais de la communication à côté, soit institutionnelle, je travaille avec des lieux culturels. Donc aujourd'hui, j'en suis très content. C'est vrai qu'au début, je prenais ça vraiment comme du complément. Mais je me rends compte que j'ai besoin de ça pour vivre, déjà, tout simplement. Et que deux, en fait, ça peut aussi me permettre de compléter, de m'améliorer dans ma pratique. En découvrant, ça peut me permettre de découvrir de nouveaux sujets. Je fais de la communication institutionnelle sur le territoire dans lequel je vis, beaucoup en Seine-Saint-Denis. Et en fait, d'aller, même si c'est de la communication, en fait, de découvrir de nouveaux lieux, de prendre des contacts, ça peut permettre aussi de réfléchir à d'autres sujets, se dire « Ah tiens, peut-être que là, en fait, il y a un sujet, il y a quelque chose à creuser. » Et voilà, du coup, et en tant que photographe, en fait, le constat que j'ai fait, notamment en parlant avec un autre photographe qui travaille dans ce lieu où on est accueilli, qui est le 193, qui s'appelle Cyril Marcilachi, j'espère ne pas écorcher son nom, qui est quand même, qui est un très grand photographe, un photographe reconnu, et
il fait également aussi de la photo institutionnelle, donc ça m'a rassuré d'une certaine manière, me dire bon, c'est normal, on a aussi un peu besoin de ça pour vivre, et je crois que c'est aussi le cas des autres photographes de Focus. Enfin, d'un côté c'est rassurant, et d'un autre côté bon, ça dit aussi quelque chose du métier de photographe et de photographe de presse, où même à haut niveau, enfin je sais pas ce qu'on appelle haut niveau, mais même des gens qui sont professionnels et professionnels depuis des années en fait ont aussi besoin de ça. Donc moi je suis aussi là-dedans, c'est un équilibre à trouver, il faut essayer aussi de pas se perdre, et voilà.
Donc tu l'as dit, tu es photographe, et on peut retrouver certaines de tes photos ici au 193 lors de cette soirée. Où est-ce qu'elles sont, tes photos, pour le public qui nous écoute? Elles sont sur le mur qui est à côté de la nourriture.
Oui, on peut le dire comme ça. C'est la salle où on est, face à nous sur la gauche. Et notamment, c'est intéressant parce que c'est des photos d'un article qui est à apparaître prochainement dans Society autour d'un grand entrepreneur d'Aubervilliers. Et c'est notamment à force de travailler dans le secteur et pas que pour la presse que en gros, c'est la personne qui possède une grande tour qui est située à la porte de la Villette, et à force de tourner autour de ça et de voir cette tour jour après jour, je m'y suis intéressé, et c'est un travail où je fais les photos, et c'est aussi un travail collectif que je fais avec Hugo Nazarenko à l'écriture, qui est aussi du collectif Focus.
Alors pour les personnes qui nous écoutent à distance, rassurez-vous, on mettra les liens vers les travaux des membres du collectif Focus sur notre site. Et vous pourrez aller les voir quand vous voudrez. Est-ce qu'il existe, Giovanni, des statistiques justement sur le nombre de pigistes qui ont des activités comme ça complémentaires à côté de la pige?
Alors non, je ne crois pas, mais je pense que c'est pas très loin du 100%. C'est-à-dire que quand on est en début de carrière, c'est plutôt le chômage qui permet de compléter les revenus. On fait de la communication, on fait de l'éducation média, on donne des cours à la fac. Y a plein d'autres façons de compléter son salaire. Mais même les pigistes confirmés, par exemple, ils écrivent des livres, ce qui est un revenu totalement différent que celui d'être salarié à la pige. Donc, moi, je connais aucun pigiste qui ne fait rien d'autre à part être journaliste.
Et on n'a pas parlé des activités aussi, des autres activités qui existent, qui, elles, peuvent être bénévoles ou semi-bénévoles, si on peut dire, qui sont, par exemple, la production de vidéos sur YouTube, gérer des réseaux sociaux, ses propres réseaux sociaux. Mélie, je crois que toi, par exemple, tu as une chaîne YouTube que tu alimentes de temps en temps. Tu as envie de nous en parler ?
Oui, j'ai une chaîne YouTube avec 125 abonnés, donc c'est pas ça qui va me faire gagner de l'argent. En fait, ma démarche avec cette chaîne, c'était surtout que des fois, il y avait des sujets pour lesquels je préparais le terrain. Je faisais un petit peu le travail préparatoire, et en fait, j'arrivais pas à le vendre. Et je me disais, c'est trop dommage de pas y aller, je le prends comme une forme d'expérimentation. Une fois de plus, parce que je pouvais me le permettre grâce au chômage. Et donc, en fait, j'ai fait ces terrains-là et je suis allée faire mes reportages. Et j'en ai fait des petits reportages que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Aussi, j'ai fait un projet où je suis partie en Turquie dans des fermes en permaculture pendant 2 ou 3 mois avec un pote. J'avais en tête de vendre des sujets à plein de monde parce que, bien sûr, tout le monde allait s'arracher mes sujets. Mais en fait, tout le monde s'en foutait. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce que je fais pour rendre ce voyage quand même un peu intéressant ? Et j'ai décidé de faire une série de Reels Instagram, où on suit mon parcours, où je présente un petit peu les gens que je rencontre, où je parle de permaculture. Et en fait, ça m'a permis aussi d'expérimenter le stop motion, ça m'a permis de tester des petits formats différents, un petit peu plus créatifs. Qui finalement c'était assez utile, et je me suis rendu compte en rentrant en France que des personnes que je connaissais pas du tout suivaient mon taf et me disaient « Ah mais c'était trop bien ton voyage en Turquie, on veut en savoir plus, on veut voir en fait ce que tu fais comme travail journalistique ». Et je me suis rendu compte « Tiens, ça a son intérêt d'avoir ces plateformes sur lesquelles n'importe qui peut poster ». Et aujourd'hui d'ailleurs, il y a beaucoup de journalistes professionnels qui se lancent sur YouTube pour la liberté absolue que ça donne. Donc c'est un autre modèle économique, ça a des enjeux compliqués. Enfin, c'est d'autres enjeux, mais je pense à des gens comme Charles Villa, Camille Reporter, qui venaient tous les deux de Brut, qui aujourd'hui ont des chaînes où ils produisent du contenu de grande qualité. Il y a Justine Rex aussi, OK Charlotte. En fait, c'est des endroits dans lesquels il y a une liberté absolue, mais dans lesquels, en fait, on n'est plus considéré comme journaliste. on n'a plus la carte de presse, par exemple. Et voilà, ça vient avec d'autres problématiques. Mais je pense que c'est quelque chose qui grandit de plus en plus. C'est une vague peut-être à prendre pour certains jeunes journalistes en vidéo.
Noujoud, tu voulais ajouter quelque chose aussi ?
Bah, pour compléter ce que dit un peu Mélie, c'est que en fait, on n'est pas juste journaliste, on est aussi communicant. Et c'est quelque chose qui s'apprend aussi sur le tas, parce que quand on est pigiste, on peut compter que sur nous-mêmes et sur notre propre promo, parce que c'est pas les rédactions qui vont aller, je sais pas, dire aux gens « Allez, lire l'article de Noujoud, il est super », etc. C'est plutôt à nous, en fait, de se saisir de ces questions-là. Et donc chacun, en fait, communique un peu comme il a envie. Ça peut être Instagram, LinkedIn, Mélis et YouTube. En fait, on a tous et toutes des moyens de communiquer. On est d'ailleurs même un peu obligé de le faire, parce que c'est aussi notre vitrine. Et c'est aussi un exercice cool à faire. Moi, je sais que je le fais pour Focus, par exemple. Donc, je communique sur mes réseaux sociaux personnels, mais aussi beaucoup sur Focus, parce qu'avec Coralie Chauvineau, qui est membre de Focus aussi, on gère les réseaux sociaux de Focus. Et c'est quand même un travail de longue haleine. C'est-à-dire que c'est assez long à faire. Et après, on prend du plaisir, parce que du coup, on est assez fiers, parce que le compte Instagram de Focus a pris vraiment beaucoup d'abonnés depuis qu'on l'a récupéré. Et on a l'impression d'avoir une ligne éditoriale et graphique, en fait, assez claire. Et ça, c'est vraiment un plaisir de le faire. Mais en tout cas, c'est un travail qu'on a en tête aussi en tant que journaliste, quoi.
Eh bien, suivez donc les comptes Instagram de Focus, mais aussi des journalistes qui composent le collectif. L'émission est bientôt terminée, mais avant de se quitter, il y a de prochains rendez-vous qui ne doivent pas être manqués. L'association, notamment Profession Pigiste, organise la semaine prochaine l'édition 2026 des 48 heures de la pige. Giovanni, est-ce que tu peux nous mettre l'eau à la bouche et nous expliquer ce qu'on va y trouver en deux mots ?
Oui, alors les 48 heures de la pige, c'est une rencontre qui était annuelle et qui maintenant se passe tous les 2 ans, donc il ne faut pas la rater. C'est à Strasbourg, ça dure 48 heures comme le nom l'indique, et c'est des rencontres et des ateliers pour les adhérents de Profession Pigiste, donc c'est que pour les journalistes pigistes. Il y aura plein d'ateliers pour débutants, intermédiaires et avancés, et des discussions politiques entre nous, une belle soirée à passer ensemble, et voilà, j'espère y voir la totalité du collectif Focus, ainsi que l'équipe de Murmure, du 4e Murmure.
On se retrouvera là-bas, en tout cas, c'est sûr, je pense qu'on sera plusieurs à s'y recroiser. Et du côté de Focus, est-ce qu'il y a de prochains travaux à paraître ? Il me semble, Jérémy, qu'il y a par exemple une enquête sur Society, c'est ça qui va paraître ?
Oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les photos qui sont exposées ce soir. C'est un long portrait d'un homme d'affaires francilien d'origine chinoise qui vient d'Aubervilliers. Ça sera à paraître dans l'été pour le magazine Society. Et effectivement, c'est une collaboration Focus avec, je répète, Hugo Nazarenko à l'écriture.
Le rendez-vous est pris. Est-ce qu'il y a d'autres travaux à venir autour de la table ou même parmi le public? Si vous voulez faire votre petite promo vite fait, vous avez 20 secondes. Mais personne n'a l'air motivé. Très bien. De toute façon, l'émission touche doucement à sa fin. C'est même déjà la fin de l'émission. C'était un épisode spécial de 4e Murmure. En direct du 193, on était au Pré-Saint-Gervais. Merci d'ailleurs de nous avoir accueillis, le 193. Merci aussi à Giovanni Simone de l'association Profession Pigiste d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci à tous les membres du collectif Focus qui ont apporté leur témoignage. Vous pouvez d'ailleurs poursuivre la conversation avec elles et eux et découvrir leurs travaux juste après cette émission. Merci aussi à Thomas et Cléo de l'équipe de 4e Murmure pour vos chroniques. On continue les remerciements avec Marion et Philippe pour la réalisation de l'émission. Et enfin, merci à vous, cher public. Restez avec nous parce qu'il y a des crêpes, il y a des boissons, il y a de la citronnade. Alors à tout de suite à la buvette. Sinon, bonne soirée et à bientôt.